Voilà le carême, et si on est un peu croyant et un petit peu pratiquant, on se dit tous, qu'est-ce qu'on va faire pendant le carême? Qu'est-ce qu'on va faire? Et alors on y va, bon, on va manger un bol de riz le vendredi, on va... Alors le matin on supprime le beurre ou la confiture? Et bien souvent on risque d'arriver, comme Jésus le dénonce, à simplement s'arrêter au superflu. Alors que le carême nous mène à quelque chose d'essentiel, puisqu'il s'agit de renouveler la grâce du baptême, de rentrer dans cette logique, de renaître, d'échapper, d'être délivré du mal. Alors vous comprenez bien que beurre ou confiture... Ce n'est pas une question de faire. Toute la semaine, j'ai été habité par un chant qui dit ceci. Cendre et poussière, je le suis. Ben, c'était de circonstance, hein, c'était de me reconnaissance. Cendre et poussière, je le suis, mais je garde au cœur une flamme. Dieu nous a fait pour vivre en lui, transformés au feu de la Pâque. Et ça a engendré une petite idée dans ma tête, c'est qu'effectivement, au début du carême, Jésus rempli de l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint au désert, c'est une expérience de l'Esprit Saint qui vient tout prendre. Et ce temps spécial qui nous coupe en tranches le temps ordinaire, là on s'est arrêté au 8e dimanche, on va le reprendre après, il commence avec l'Esprit Saint ici aujourd'hui, et il finit avec l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Alors, en bonne exégète, quand on a un truc au début et un truc à la fin, on dit que ça concerne tout ce qu'il y a au milieu. Donc, c'est un carême à faire dans l'Esprit Saint, en gardant au cœur une flamme. Et quelle est cette flamme? Alors, le livre du Deutéronome, on se demande bien pourquoi, tiens, il y a le livre du Deutéronome en première lecture avec les tentations de Jésus. Eh bien, il va nous donner une clé. La clé, c'est d'abord que toutes les réponses que Jésus prend dans l'Écriture pour parer au diable, c'est pris dans l'Écriture. Alors, premier petit effort de carême, pas superflu. Si je veux combattre, il faut que je connaisse un peu l'Écriture. Et pour combattre l'Écriture, ça ne demande pas de prendre ma Bible et puis d'aller chercher telle référence, machin, etc., parce que ce n'est pas une histoire de savant. C'est une histoire de personnes habitées. Il faut que je lise suffisamment la Bible, comme on lit des contes, comme on lit de lire, de s'imprégner, etc., pour que dans les situations où je me retrouve, comme Jésus ici, ça devienne prière. Ça devienne, vous voyez, c'est ça la prière à partir de l'Écriture. C'est pas je vais simplement, ah ben je prends ça puis je vais faire une prière parce que je l'adresse à Dieu, etc. Mais c'est d'être habité. Alors bon, il y a du travail, c'est pas grave. Mais pourquoi c'est important cette lecture? Parce que quand tu vas vouloir faire une offrande au Seigneur, parce que c'est le geste religieux par excellence depuis les anciens temps, parce que le carême, ben ça nous, on va offrir, on va faire des petits sacrifices, et puis on n'est pas du tout contre. Mais tu vas d'abord faire une profession de foi. Je suis un araméen vagabond. Si on traduisait dans le français courant, on dirait un peu paumé. Hein? Et je suis descendu en Égypte. Alors là, c'est le comble. Hein? Mais là, j'ai profité, j'ai fait de la richesse. Et puis, il y a tout le récit de la Pâque. Hein? Bien sûr qu'on fait des sacrifices, on va faire des choses, on va produire des efforts. Parce qu'un sacrifice, en hébreu, ça se dit korban, c'est ce qu'on fait pour s'approcher du Seigneur. Mais encore une fois, pas de l'extérieur, s'il vous plaît. Vous avez entendu la deuxième lecture qui nous demande que le cœur et la bouche soient en syntonie pour le salut. Et le cœur, ce n'est pas simplement mon opinion, c'est le centre de décision, là où ça réfléchit tout seul, où ça avance pour moi, où je prends mes décisions, ou ne les prends pas d'ailleurs. Mais que ce soit en accord et que le Seigneur y soit. Et pour cela, il faut descendre dans cette expérience d'Abraham qui est choisi par le Seigneur, et puis du peuple qui, avec le Seigneur, va sortir d'Égypte, mais qui crie, qui peine, d'aller voir, mais quelles sont les zones de souffrance, de peine, les zones où je suis réduit en esclavage, où je n'ai plus de liberté, les zones de mort dans mon cœur. Pour crier vers le Seigneur, pour justement faire cette expérience où le Seigneur va nous faire sortir des mauvais pas dans lesquels la vie nous a mis. Et à propos de cette vie, on va retrouver ici des indications essentielles avec ce texte de Jésus, cette expérience de Jésus dans le désert. De quoi s'agit-il? Vous pensez bien que Jésus va au désert et il est tenté par le diable. On ne nous dit pas qu'il est sorti pour aller faire une expérience de jeûne. Non, on nous dit qu'il est tenté par le diable et il est tellement asticoté par le diable qu'il n'a même plus envie de manger. Bon. C'est une épreuve forte. La première épreuve, elle concerne le pain. Le pain, il y a une vision tout à fait différente de Matthieu et de Luc. Matthieu s'adresse plus à des gens qui connaissent bien la Bible et donc fait tout sur le schéma de l'Exode. Ici, Saint Luc le prend plus sur le thème de la vie. Le pain, c'est ce qui entretient la vie. Et la tentation, c'est pour Jésus de se faire patron, mais de prendre la vie non comme un don, mais comme un fait, un état de fait dont on pourrait se rendre maître. Et c'était la leçon de la lecture que l'on a lue du Deutéronome avec cette profession de foi. Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte. Et puis voilà. Et parce que c'est quand tu vas présenter, reviens à cette expérience fondamentale où le Seigneur te libère, t'a libéré. Et tu vas découvrir que la vie, c'est un don, c'est quelque chose que tu as reçu, c'est quelque chose de merveilleux. Et la grande tentation pour nous, c'est de vouloir nous rendre maîtres. C'est non, la vie, c'est... Et aujourd'hui, dans notre société, on le voit bien, toutes les discussions autour de la vie, dans sa naissance ou à sa mort ou au milieu, c'est nous devons nous rendre maîtres, simplement. Il y a aussi dans notre texte... Le diable se retire jusqu'au moment dit. Et on va retrouver ce moment à la croix. Là aussi, on a au début de la vie publique, à la fin de la vie publique. Vous allez voir, ça prend toute la vie de Jésus, cet enseignement, cette lutte, ce combat. Et on reprend ici, on voit avec le larron qui injurie Jésus, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec ». Prends les choses en main, simplement. Tu es maître de la vie, alors fais-le. Le deuxième, c'est un peu, mais ça regarde un autre point, non plus simplement notre vie, notre survie, mais cette extension de notre vie dans la relation avec les autres. Dans la relation avec les autres, où va toucher les zones de pouvoir, les zones de la manière dont on peut vivre dans nos relations, et où on est bien souvent, comme fils d'Adam, poussé par la volonté de puissance au lieu de vivre, de rendre, de donner à chacun sa liberté par la jouissance au lieu de l'amour, par la consommation au lieu du vrai désir et la domination au lieu de la communion. Hein. Et puis, donc tout ce qui a trait au pouvoir, ma place. Et puis, il y a plus profondément, vous avez entendu le texte, hein, la deuxième tentation, il le mena plus haut. Et puis après, il le mène au sommet. Alors vraiment, on grandit d'une fois encore. Et il y a au temple, et il va s'agir justement dans cette... De découvrir l'adoration véritable, le pardon, la gratuité dans les relations, hein, où le Seigneur va nous amener à vivre. Et on a dans cet enseignement de Jésus, alors vous voyez, on retrouve, eh bien, pour la volonté de puissance, c'est les soldats qui disent à Jésus, ben, si tu es le roi d'Israël, sauve-toi toi-même. Hein. Et puis vous avez le peuple qui dit, si tu es le Christ, l'élu de Dieu, hein, voilà le rapport avec le temple, avec l'adoration. Et ce qui est intéressant, voyez, c'est ce qui est attaqué, ce qui est important pour nous, ce qui va être important au creux de la Pâque, et ce qui dans les difficultés, et la petite Thérèse par exemple nous le montre parfaite, les difficultés au niveau de la foi, ce qui est très important, c'est de faire des actes de foi. Et si on sent bien cette force des actes de foi, si tu es le Fils de Dieu, et Jésus va, j'allais dire, son titre de Fils de Dieu est éprouvé. Comme nous souvent, dans notre société aujourd'hui, eh bien, notre titre de chrétien, notre titre d'enfant libre est éprouvé d'une manière radicale. Et nous sommes appelés à descendre au fond de notre cœur, à vivre profondément, à nous laisser interroger par tout ce qui est puissance de mort, encore une fois, par tout ce qui est contrefaçon de cette liberté du Seigneur, pour apprendre, pour approfondir. Alors, nous allons tirer d'une manière toute différente, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce carême? Où va-t-on se laisser toucher? Où va-t-on reconnaître que là, il y a quelque chose qui m'empêche de vivre? Là, il y a quelque chose, hein, et on retrouve d'ailleurs à l'intérieur toute la structure de l'Évangile, la prière de Jésus, parce que vous entendez bien dans ces trois tentations, il y a la deuxième partie du Notre Père, donne-nous notre pain super essentiel, hein, le pain pour vivre le royaume, et le pain de chaque jour, comme on dit, mais c'est le pain super essentiel, le pain de la parole de Dieu, eh bien, qu'on puisse l'accueillir. Le pardon des dettes, c'est toutes les relations de pouvoir, etc., mais de y mettre de la gratuité dans nos relations. Et puis, ne nous laisse pas introduire dans la tentation, c'est celle du temple, de la vraie adoration, de ne pas réduire les gens à l'image que l'on en a, mais d'accepter l'autre, hein, et de se laisser prendre à l'intérieur. Eh bien, on va demander au Seigneur de prendre, et moi je vous invite à prendre cette semaine un vrai temps pour vous interroger, non pas qu'est-ce que je vais faire pour le carême, mais où est-ce, quelle partie de moi-même je vais mettre dans la lumière du Seigneur. Et je vais me laisser toucher, et je vais me laisser agir. Parce que c'est vrai, vous savez, si on fait des exercices, alors peut-être que les gens forts y arriveront, mais bien souvent on a du mal. Mais ici, il ne s'agit pas de faire des efforts, il s'agit de s'ouvrir à la grâce du Seigneur qui vient déployer sa force en nous. Quand on a décidé de se laisser toucher, quand on ouvre à la lumière, quand on accepte de se faire aider par l'autre, par le Seigneur, par l'Esprit Saint, alors, eh bien, il y a quelque chose en nous qui s'est placé dans le oui du Seigneur. Et ce n'est plus un effort à l'arrache. Bien sûr que c'est exigeant. Bien sûr que, comme toute vraie prière, ça va nous demander de descendre ici dans le cri, dans les larmes, dans les difficultés. Mais y a-t-il une vraie prière si elle n'a pas touché le cri, les larmes, la peine profonde et l'incapacité de vivre? Si elle ne naît pas de là notre prière, s'il ne naissent pas de là nos efforts, y a-t-il prière? Y a-t-il effort?